Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes devant ta face, avec action de grâce et cœur rempli de gratitude, parce que tu demeures sur ton trône de la protection, ton trône de la bénédiction abondante, ton trône de la vie. Et du haut de ton trône, tu nous parles. Nous sommes assis en ces lieux. Nous sommes venus répondre, Seigneur, à ton rendez-vous. Nous avons besoin que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur, afin que nous menions une vie réellement transformée et impactante. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vais vous inviter à la lecture de la parole de Dieu cet avant-midi. Nous allons lire trois petits textes. Nous commençons la lecture à Genèse, le chapitre 39. Nous allons commencer à la partie C du sixième verset, c'est-à-dire la dernière phrase du sixième verset. Nous finissons au dixième verset. Après cela, nous allons lire l'Évangile selon Jean, le chapitre 19, le verset 23 à 24. Après Jean, nous lirons la première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 15 à 17. Je vais commencer la lecture en Genèse, chapitre 39, le verset 6c. La parole de Dieu dit ce qui suit. Joseph était un jeune homme beau et charmant. Avec précision, je lis en français courant. Joseph était un jeune homme beau et charmant. Au bout de quelques temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit, « Viens au lit avec moi. » Jamais, répondit Joseph, mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors, comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et péché contre Dieu lui-même? Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais il n'accepta jamais de les lui céder. Évangile selon Jean, le chapitre 19, le verset 23 jusqu'à 24. La Bible dit, quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une seule pièce du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres, « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'est ainsi que devrait se réaliser le passage de l'Écriture qui déclare, « Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. » Voilà ce que firent les soldats. La première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 15 à 17. La parole de Dieu dit ce qui suit. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit. Ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce qu'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. C'est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet avant-midi et ce rendez-vous avec le Seigneur, nous avons voulu ajouter à ce que nous venons de faire pour le Seigneur depuis que nous venons de commencer ce culte, parler du témoignage de la foi dans un monde corrompu, ce que nous enseigne la nudité de Jésus sur la croix. Cette année, nous sommes en train de parler du thème qui dit « Nous avons été restaurés afin que nous puissions conquérir le monde ». Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde corrompu. C'est un monde plein d'antivaleurs. Et c'est dans ce monde que le Seigneur a permis que nous soyons. D'ailleurs, dans la prière de Jésus, quand il s'adresse à son Père, à Jean 17, il dit, il prie pour ses disciples, il leur dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Vivez au monde tout en sachant que nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur sait qu'il a une mission spéciale qu'il a accordée à chacun de nous. C'est pourquoi tu es vivant sur cette terre. Celui qui vient de finir sa mission, il vient de mourir. Il est déjà enterré, il est à la morgue. Mais si tu es assis ici, tu es vivant, le Seigneur a une mission encore pour toi. Et dans ce monde plein d'antivaleurs, un monde corrompu, tu as besoin de témoigner. Mais le problème, c'est lorsque, quand on nous demande de témoigner, parler des œuvres de Christ dans notre vie, dans la vie du monde, nous avons un problème de manque d'assurance du salut. Nous ne sommes pas sûrs réellement si nous avons Christ en nous. Nous pouvons avoir Christ en nous. Un autre problème survient, celui du manque de mots avec lesquels témoigner. On peut manquer des mots avec lesquels témoigner, ou bien on trouve des mots, mais le comportement ne part pas en harmonie avec les mots et ça devient un défi. Aussi, tu peux ne pas témoigner dans ce monde parce que tu as des sentiments de culpabilité à cause du passé. Le passé que tu as eu, c'est vrai. C'était passé sombre et nous avons des preuves. Mais le diable, il te rappelle toujours la manière dont tu étais. Et cela te freine à témoigner parce que tu as ce sentiment de culpabilité à cause du passé. Et ce passé-là, quand tu te rappelles de ce que tu as fait, de ce que tu as vécu, tu as la honte que tu as subie, La honte qui a été vue par tous dans ce monde. Et tu es là, mais tu as crié au Seigneur Jésus. Quand tu vas te mettre pour parler de Jésus, le diable te rappelle ce que tu as été avant. Et tu fermes ta bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos familles, dans notre société, partout où nous sommes, nous avons des antivaleurs et que nous sommes appelés à éclairer en tant qu'enfants de Dieu, en tant que témoins de la grâce que nous avons reçue de Dieu. Nous pouvons nous démarquer de ce monde. Il est possible que nous puissions nous démarquer de ce monde. Jésus, qui est notre modèle par excellence, et même avant lui, avant Jésus, la Bible nous parle d'un homme, un jeune homme qu'on appelle Joseph, le fils de Jacob. Jésus a subi la honte sur la croix. La honte sur la croix qui nous ouvre la voie de témoigner et de vivre sans culpabilité sous sa volonté. Alors, que vient faire la nudité de Jésus-Christ dans la prédication de ce jour? Nous venons de lire le livre ou l'évangile selon Jean. Le chapitre 19, les versets 23 à 24, deux versets seulement que nous avons lus. Ce sont des versets qui parlent de la crucifixion de Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible a dit que Jésus, quand on l'amène vers la croix, les soldats ont pris ses vêtements. Il y a eu des vêtements et un autre vêtement qu'on appelle tunique. Ils ont pris les vêtements, ils se sont donné ces vêtements à quatre parties, ils se les sont divisés à quatre parties. Et il y a eu une tunique, ils ont tiré au sort. Ils ont tiré au sort. Pour dire quoi? Quand nous lisons la Bible, ça veut dire Jésus, comme toute autre personne qui arrive sur cette terre, Jésus est né nu, mais aussi, ça veut dire, dans la crèche, il est né nu. Cet homme de 33 ans, quand il meurt sur la croix, il meurt aussi nu. Il meurt comme il est né. Le film que nous voyons souvent montre, c'est pour des réseaux de pudeur. C'est pour des réseaux de pudeur que lorsque on fait le film de Jésus, on lui fait habiller un sous-vêtement. Mais selon la Bible, il était nu. Un homme de 33 ans, devant sa mère, devant tout le monde. Et cette manière de faire avait son origine. Cette manière avait son origine à l'époque de Christ sur la terre. C'était les Romains qui régnaient. Et avant les Romains, il y avait les Perses et les Mèdes. Alors c'était les Perses et les Mèdes qui avaient cette habitude de faire le supplice de la crucifixion. Donc Jésus n'était pas la première personne à être crucifié. Cette habitude était répandue dans l'Empire romain depuis les premiers siècles. Et c'était une habitude qui était réservée aux gens méprisables comme les voleurs, les bandits et aux dénudés, les condamnés. On te dénude et on t'expose
cloué sur le bois
jusqu'à ce que mort s'assuive. Et les évangiles affirment que Jésus aussi a subi. Parce que Jésus, il a été aussi bandit. Il a été assimilé à ces gens-là. Donc, son comportement n'était pas conforme à ce qu'on entendait de lui dans la société. Et cela lui a valu la crucifixion, la mort de la honte. Il meurt nu sur la croix. À cette époque, les hommes juifs s'habillaient de deux manières. Au dehors, ils portaient ce qu'on appelle robe. En grec, ça s'appelle himatios. Et à l'intérieur, ils portaient la tunique, qui s'appelle chiton en grec. Et donc, la robe, c'est ce qui était visible. La tunique, c'est ce que nous pouvons appeler sous-vêtement. Et à part ça, les hommes portaient aussi des sandales à pied et ils pouvaient mettre un chapeau à la tête. Et Jean nous montre que les vêtements de Jésus ont été partagés par les soldats et sa tunique, même son sous-vêtement, a été enlevé. La première signification de cet acte, c'est que quand on fait ceci, quand on fait cet acte, c'est pour donner la honte absolue et dénigrer toute la lignée de celui qui s'est mal comporté dans la société, décourager quelqu'un d'autre qui peut aussi emprunter sa voie. Et c'est pourquoi le crucifié était considéré comme maudit, humilié devant tout le monde pour décourager un tel autre comportement dans la société. Et comme nous l'avons dit, avant de crucifier Jésus, ses vêtements lui ont été ôtés. Et ses vêtements ont été partagés par les soldats, par tirage au sort. Ils ont laissé Jésus nu et ils s'en sont procurés. Ils s'en sont procurés. Il y a une signification dans cela. Tout ceci peut signifier quoi? D'une manière théologique et spirituelle dans notre vie. Nous ne pouvons pas parler de la nudité de Jésus-Christ sur la croix sans parler de la nudité d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève sont tombés dans le péché, dans leur nudité créationnelle, et qui s'est transformée dorénavant en peur et honte existentielle. Les hommes, Adam et Ève, étaient créés nus. Ils n'avaient pas d'habits, mais ils ne savaient pas qu'ils sont nus. Ça, c'est comme la chèvre. La chèvre est nue, mais elle ne sait pas qu'elle est nue. C'est comme ça que l'homme aussi a été créé. Aux yeux de Dieu, que vous soyez sans habit, que vous soyez avec des habits, le Seigneur, quand il vous voit être en bonne relation avec lui, il ne voit pas votre nudité. Il vous voit parce qu'il sait que ce que je cherche en lui, c'est ce qui est dans son cœur. Après le péché, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Donc, le péché a enlevé cette gloire qui remplissait leur nudité. La gloire qui cachait leur nudité. Et donc, pour sauver l'homme et le guérir de la peur, parce qu'après la nudité dans le jardin d'Éden, L'homme et la femme
ont eu peur, ont eu la honte.
Ils se sont cachés.
Si vous lisez le chapitre 3 de Genèse. Et maintenant, pour sauver l'homme de cette honte, pour le guérir de cette peur existentielle qui le taraudait déjà, Jésus devait rejoindre, ou Jésus devait le rejoindre dans la peur. Jésus devait le rejoindre dans la honte de la nudité corporelle. Pour que cette œuvre de Christ soit authentique, physiquement et spirituellement, il fallait que Jésus aussi prenne cette attitude de la honte dans le jardin d'Éden. Pour dire quoi? La nudité de Jésus sur la croix répond à la nudité de Genèse, le chapitre 3. Et lui enlève sa peur et sa honte. En fait, le Christ a pris notre peur causée par le péché. Le Christ a pris notre honte causée par la nudité. Pour que nous puissions vivre dans la quiétude émotionnelle, dans la quiétude spirituelle, dans la quiétude physique. La honte du jardin d'Éden, à laquelle Jésus apporte solution, a eu aussi une cause. Et ces causes, ce sont aussi des choses que nous voyons aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lu la première épître de Jean, le chapitre 2, les versets 15 à 17. Là, nous trouvons quoi? Ici, nous trouvons ce qu'on appelle, la Bible a dit, « N'aimez pas le monde et tout ce qui s'y trouve. Ce qui vient du monde ne vient pas du Père. » Dans le monde, il y a la convoitise de la chair. Dans le monde, il y a la convoitise des yeux. Dans le monde, il y a l'orgueil de la vie. Et ceci trouve son soubassement à Genèse. À Genèse, le chapitre 3. Ceci trouve son soubassement à Genèse, le chapitre 3, où la parole de Dieu dit ceci. Le verset 6 et 7. Le verset 5 et 6, plutôt. Mais Dieu le sait bien. Ça, c'est le diable qui parle. Hein? Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et lui aussi. Trois comportements que nous venons de lire aussi dans la première épître de Jean. Il y a la convoitise de la chair, avide de ce qui semblait bon. La femme vit que l'arbre, le fruit de l'arbre, était bon à manger. La convoitise des yeux, la femme vit que l'arbre était agréable à la vue. La convoitise ou l'orgueil de la vie, le désir d'acquérir du discernement et d'être comme Dieu. C'est ce qui était au jardin d'Éden. Et ceci intervient après le dialogue entre le diable et Ève. Le problème ici, c'est que tous ces fruits étaient dans le jardin d'Éden. Étant dans le jardin d'Éden, bon, la Bible ne le dit pas, mais nous supposons que, parce que il avait, quand même Dieu avait dit à Adam et Ève, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas. Ça veut dire, on ne peut pas vous interdire ce que vous ne voyez pas.
Il voyait
et il passait par là. Mais il a fallu une discussion. Il a fallu une parole pour que la femme constate que c'est beau à manger, beau à voir et qui peut donner du discernement. Ce sont des choses que Dieu avait déjà données à l'homme et à sa femme. Ils veulent devenir comme Dieu alors que Dieu venait de les créer à son image. Ils veulent manger des fruits du jardin alors que Dieu leur avait déjà permis de manger de tous les autres fruits du jardin. Ainsi, l'homme devient toujours nu lorsque il veut avoir du diable ce qu'il a déjà reçu de Dieu. Tu as déjà reçu de Dieu quelque chose, mais le diable est capable de venir encore te le proposer. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et il te donne des raisons pour lesquelles tu peux le faire. Dieu a seulement besoin de notre volonté. Il est possible que le diable nous propose ce que Dieu aussi nous a déjà donné. C'est comme la tentation de Jésus dans le désert. Le problème de Dieu, c'est quoi? C'est de savoir, quand tu agis, quand tu fais la volonté de quelque chose, quand tu fais quelque chose, tu le fais parce que... Tu le fais parce que tu réfléchis ou tu réponds à la volonté de Dieu, ou tu le fais parce que tu réponds à la volonté du diable. Quand tu as une voix à toi à l'intérieur, aie du discernement et demande-toi d'où vient la voix. Même si ce qu'on me demande, c'est bon. Même si ce que je vais faire, ça peut être bon. Mais quand je vais le faire, j'aurai obéi à la volonté de qui? Nous avons un problème ici dans les comportements naturels des humains. Un comportement naturel des humains, c'est celui-ci. Les hommes, naturellement, sont emportés par ce qu'ils voient. Les yeux, les actions. Les femmes sont naturellement emportées par ce qu'elles écoutent. Elles sont naturellement emportées par ce qu'elles écoutent. Ève a entendu la voix. Il y a une discussion. Elle a été convaincue. Adam a vu le fruit lui présenté devant lui. Sans discuter, il a mangé. Et naturellement, c'est ça. Nous, les hommes, nous apprécions par les yeux. Les femmes apprécient par les oreilles. Ce qui entre par les oreilles, ce qui peut les convaincre. C'est pourquoi, parmi nous, les hommes et les femmes, conformément à cette histoire d'Adam et Ève, nous devons, il y a ceux qui doivent faire attention à ce qu'ils voient. Ceux qui doivent faire attention à ce qu'ils voient et celles qui doivent faire attention à ce qu'elles écoutent. Ipso facto, il y a ceux qui doivent faire attention à ce qui sort de leur bouche et celles qui doivent faire attention à leur corps qui attire les yeux des autres. Pourquoi nous disons ceci? Parce que la honte de Jésus sur la croix nous a habillés de notre péché spirituellement, mais aussi cette honte nous a habillés physiquement. Lavés de la honte spirituelle, nous ne sommes plus coupables, mais aussi habillés. Nous avons lu à Jean, la parole de Dieu a dit, les soldats ont déshabillé Jésus. Ils n'ont pas jeté ses vêtements, ils se les ont partagés. et la tunique, on l'a tiré au sort. Ça veut dire l'acte que les soldats ont fait sur la croix. Laisser Jésus sur la croix nu signifie que nous qui croyons en ce Jésus, parce que et les soldats, et le peuple, tout le monde qui était là, et les humains, sont ceux-là qui sont considérés nus parce qu'ils ont été pécheurs. Alors quand Jésus meurt sur la croix, il donne sa vie, il donne aussi ses vêtements. Vous qui allez croire en moi, habillez-vous. Ne marchez pas nu, parce que je vais faire de vos corps mon temple. Le fait que je meurs sur la croix, je vais faire de vos corps mon temple. Habillez-vous pour que vous ne puissiez plus avoir la honte. Ces soldats nous représentent valablement. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre cette analogie qui est là. Quelqu'un qui accepte d'être nu et il vous donne ses habits pour qu'il soit nu et que vous vous soyez habillé. Que vous vous soyez habillé. Et donc, lorsque nous sommes appelés à témoigner dans ce monde ici, nous ne devons pas être de ces gens-là qui vont être l'origine du scandale. Nous ne devons pas être la source du scandale. C'est pourquoi Jésus a dit à Matthieu 18, les versets 6 et 7, il dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. » Le verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Nous sommes au monde et les scandales arriveront toujours. » Le verset continue, il dit, « Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à la personne par laquelle le scandale arrive. Malheur à la personne par laquelle un petit quelqu'un peut rater le ciel parce que tu as été un scandale pour lui. Jésus nous a déjà habillés. Et comment nous nous habillons aussi physiquement et spirituellement? Oui, il est possible que spirituellement nous sommes déjà habillés. Nous n'avons plus de problèmes avec Dieu. Nous n'avons plus de culpabilité du péché. Mais nos corps dans lesquels Jésus reste, comment nous les habillons? Est-ce que nous avons aussi reçu cette tunique-là pour que Jésus reste avec notre honte sur la croix, pour qu'il nous donne notre dignité étant habillé? Ce même tirage au sort qu'on fait souvent, que les soldats avaient fait sur la croix, c'est le même tirage au sort que nous faisons chaque fois que nous allons au marché et nous achetons les vêtements. Parce que quand tu arrives au marché, on ne t'impose pas un vêtement. Même si tu vas payer de ton propre argent, tu choisis toi-même. Tu dis, ici je prends, ceci je prends, ceci je prends. Et tu vas voir si ça te convient. Tu sors de là avec ton vêtement. Et tu dis, vous savez souvent, nous avons des habits du dimanche. Les habits, je ne sais pas d'où, partout. Chacun de nous a ces trois catégories, quatre catégories, je ne sais pas. Comment nous les faisons? Lorsque nous sommes devant les boutiquiers, nous devons savoir que Jésus est là sur la croix nu parce qu'il nous propose ses vêtements pour que nous soyons habillés et que lui reste nu sur la croix parce qu'il veut nous couvrir de nos hontes. Jésus veut nous couvrir de nos hontes. Un jour, quand nous étions ici, c'était le jour du séminaire des couples. L'enseignant qui était dans notre groupe, il nous a parlé des mamans aujourd'hui qui s'habillent et vous la voyez s'habiller, elle passe à court de route avec les mamelles comme si c'est suspendu sur un plat. Pourquoi? Vous pouvez être tenté de faire ça parce que aussi, il y a parmi nous les gens, comme je l'ai dit, qui sont attirés par la vue. Parce qu'ils veulent voir les hommes. Les hommes veulent voir. Mais aussi, nous pouvons oublier la manière dont le Seigneur nous a créés. Le Seigneur, physiquement et biologiquement, il nous a créés différemment. Un homme est créé différemment d'une femme. Les fesses d'un homme sont créées différemment des fesses d'une femme. Et donc, lorsque tu es devant le tirage au sort du vêtement, n'oublie pas que tu es une femme. N'oublie pas que tu es un homme. N'oublie pas qui tu es pour que tu ne puisses pas être source de scandale. Pour les petits, ce qui m'intrigue, c'est que lorsque nous avons des rendez-vous avec les grands de ce monde, les gouverneurs et les autres, nous ne pouvons pas y aller habillé n'importe comment. Parce que nous voulons être reçus. Mais quand nous venons à l'église, les gens viennent comme ils veulent. Les mamelles sur les plats. Les gens viennent comme ils veulent. Et vous voyez quelqu'un venir prendre la scène comme ça et le scandale. On s'était tout simplement, mais le scandale est déjà là. Le scandale est déjà là. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas accepté d'être cloué sur la croix étant habillé. Il a enlevé ses vêtements pour qu'il te les donne, toi. Pour que tu ne sois pas une source de scandale dans ce monde. C'est pourquoi nous devons toujours nous souvenir de ce que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de finir une des valeurs qui doivent demeurer, le leitmotiv de la vie de chacun de nous, c'est la recherche de la dignité à tout prix. Rechercher la dignité spirituelle, la dignité financière, la manière dont tu gagnes ton argent, est-ce que c'est digne? La dignité physique, la manière dont tu te comportes corporellement, est-ce que c'est digne? Se compromettre avec le monde, c'est perdre la présence et les promesses de Dieu. Et nous revenons dans la honte d'Adam et d'Ève. Les croyants, nous tous, nous devons rompre avec toute forme d'impiété et résister continuellement au désir coupable du corps. Vous savez, en Afrique, au monde entier, à l'Église, nous avons besoin de beaucoup de Joseph, des hommes et des femmes de confiance qui peuvent travailler honnêtement et qui peuvent être des sources de bénédiction pour leurs employeurs et leurs employés, malgré les différentes natures de tentations qui nous sont soumises. Et nous devons faire attention. C'est là que maintenant les chrétiens doivent être prudents. Dans l'histoire de Joseph, Joseph, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar l'a pris par force. Elle est restée avec sa tunique comme preuve. Et toute personne à laquelle on devait raconter cette histoire devait directement reconnaître que c'est vrai. Parce que la preuve était là. Donc il est possible que la preuve soit vraie. Mais si tu es chrétien prudent, que la preuve soit prête dans une histoire fausse. Alors, pour que les gens sachent que l'histoire était fausse, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. C'est pourquoi nous avons besoin de la prudence. Nous avons besoin de la prudence, nous qui sommes des chrétiens, afin que la gloire revienne à Dieu. Oui, beaucoup d'hommes et de femmes sont tombés dans l'immoralité sexuelle parce que leur beauté physique
les a rendus désirables.
Ou les a permis de manipuler les autres. Dieu t'a créé à son image. Il t'a bien créé. Et il est possible que tu oublies la manière dont tu es créé et tu n'utilises pas ta création pour la gloire de Dieu. Et tu deviens source de scandale dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, il est possible que tu sois là aujourd'hui et tu vis encore dans la peur. Tu vis encore la honte causée par le péché passé, les choses qui se sont déjà passées et ta conscience ou peut-être le diable ne cesse de te les rappeler. Aujourd'hui, je suis venu te dire de te calmer. Parce que la nudité de Christ sur la croix, elle est guérissante de nos nudités spirituelles et physiques. Romains 8, 6 dit, quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit les désirs de l'Esprit Saint, il va vers la vie et la paix. Et Apocalypse 16, 15 qui dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je vais vous demander de vous mettre debout. En Jésus, j'ai placé ma confiance. Nul ami n'est meilleur que lui. Mes amis dans mon cœur, l'espérance. Et je vais chanter aujourd'hui attaché. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses méditer sur cette parole et cet acte que Jésus a fait sur la croix, qui a pris notre honte de péché, celui qui a été dénudé afin que nous soyons vêtus, et spirituellement et physiquement. Oui, fais l'introspection de ton cœur. Reviens à toi-même. Comment tu témoignes dans ta vie? Comment tu témoignes par ta parole? Comment tu témoignes par ta marche? Comment tu témoignes par ton habillement? Oui, le Seigneur nous a laissé aussi ses habits. À part le fait de donner la vie, il nous a aussi donné ses habits afin que nous ne soyons l'objet de honte sur cette terre. Mais aussi, tu as encore honte de la culpabilité du passé. Souviens-toi que le Seigneur a effacé cette culpabilité. La honte causée dans le jardin d'Éden, sur la croix, elle a été effacée. Il a pris nos hontes afin qu'il règne et que nous puissions régner avec lui. Qu'est-ce qui t'empêche de témoigner dans la vie? Oui, Seigneur, nous sommes debout devant ta face. Nous voulons, Seigneur, reconnaître ton œuvre salvatrice sur la croix. Cette œuvre
qui nous enlève nos sentiments de culpabilité et de péché, mais aussi cette œuvre qui nous enseigne la manière dont nous devons témoigner spirituellement, physiquement, à tout prix. Fais à ce que, Seigneur, nous soyons dignes. Recherchons la dignité de notre relation avec toi, la dignité de nos cœurs, la dignité de nos corps. Oui, Seigneur, aide-nous à marcher selon ta volonté. Accepte-nous, Seigneur, d'être tes vrais instruments, ces instruments qui sont utilisés pour ta gloire. Il est possible que certains parmi nous aient des preuves qui sont vraies, mais nous prions, Seigneur, que leurs histoires soient fausses, afin que la gloire te revienne et que tu triomphes dans la vie de chacun de nous. Nous te glorifions et nous te bénissons. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.